Chapitre 2. Porte. Plus je me plonge dans les affaires et les accointances de sire et dame humble, plus je me convainc du bien fondé de vos soupçons. S'ils ont accepté l'invitation que Sa Majesté a lancée à la jeune damoiselle Sidèle de passer quelque temps à la cour de Castelserre, ils l'ont fait de mauvaise grâce et sans empressement, et le père a manifesté en l'occurrence une sécheresse de cœur plus âpre que la mère. Elle s'est montrée scandalisée qu'il laisse partir sa fille sans une seule toilette convenable pour une fête ou un bal, ni même pour une journée ordinaire à la cour. En outre, la rente qu'il lui alloue ne suffirait pas à une fille de laiterie. Il espère, selon moi, qu'elle détonnera tant chez la reine qu'on finira par la renvoyer chez elle. Méfiez-vous de la femme qu'il lui a choisie comme servante. Je suggère qu'on découvre un grief quelconque contre cette opale et qu'on la chasse de Castelserre au plus vite. Veillez à ce que son chagrin s'en aille avec elle. Sidèle, pour elle, ne paraît guère coupable que d'être jeune et volage. Pour ces raisons, je ne pense pas qu'elle sache ses parents membres déclarés d'épi, et encore moins qu'elle soit au courant de leur complot. Rapport d'espionnage anonyme. Des marées favorables avaient porté les bateaux jusqu'à nous plus tôt que prévu. Mais si nous nous étonnâmes de leur arrivée précoce, leurs équipages restèrent effarés de notre nombre, et les embarcations qu'ils mirent à la mer pour se rendre à terre débordaient de passagers pressés d'apprendre ce qui s'était passé. Tant de nos hommes se précipitèrent à leur rencontre que les barques furent littéralement soulevées et transportées à sec avant que personne pût en descendre. Il s'ensuivit un vacarme qui évoquait celui d'une bataille, car chacun voulait raconter son histoire à sa façon aux visiteurs stupéfaits, au milieu des rires, de coups amicaux sur la poitrine et de grandes claques sur les épaules. Au-dessus de ce joyeux tohu-bohu éclatait la voix rugissante d'Arconne s'engrépée, qui partageait le triomphe du clan du Narval. En revanche, ses retrouvailles avec Ertre prirent un tour plus retenu et formaliste que je ne m'y attendais. Père d'Eliania, il n'avait néanmoins jamais épousé officiellement sa mère, et Cossy n'était pas sa fille. Il se réjouit donc de leur retour en ami, non en père ni en époux, et sa satisfaction sembla plutôt celle d'un guerrier heureux de la victoire d'un allié. Je devais apprendre plus tard que la Narchesca lui avait fait miroiter de somptueux gains en matière de récolte, de commerce et autres avantages. Les terres du clan du Sanglier étaient caillouteuses et escarpées, parfaites pour y pâturer des porcs, mais impropres au labour et à la moisson. Sangrépé devait subvenir aux besoins de 8 jeunes nièces, et la victoire du Narval assurerait la prospérité de ses enfants du Sanglier. Mais je ne voyais alors que les manifestations d'allégresse autour de l'Est et moi, et notre peine en paraissait aggravée. Pis encore, la veille, j'avais pris une résolution que je sentais si juste que rien, je le savais, ne pourrait m'en détourner. Aussi, pendant qu'au dehors on poussait des cris de joie et qu'on haussait la voix pour raconter son histoire plus fort que son voisin, je m'entretins discrètement avec l'enfant dans la pénombre de la toile qui protégeait Burick Gisant. Je ne repars pas avec vous. Sauras-tu t'occuper de ton père sans moi?
Si je... Comment ça, vous ne repartez pas avec nous? Et que voulez-vous faire d'autre?
Restez ici. Il faut que je retourne au glacier l'Est. Je veux chercher un moyen de pénétrer dans le palais souterrain, au moins pour retrouver la dépouille de mon ami et la brûler. Il avait horreur du froid. Il n'aurait pas aimé demeurer à jamais enfoui dans la glace.
Et qu'espérez-vous d'autre? Vous ne me dites pas tout.
Je marquai une pause. Envisageais d'inventer un mensonge, puis repoussais cette idée. J'avais assez menti pour toute ma vie. J'espère découvrir le cadavre de la femme pâle, la voir morte, avoir la certitude qu'elle a payé tout ce qu'elle nous a fait subir. Et si je la trouve vivante, j'espère la tuer. Telle était la promesse simple à laquelle je m'engageais. La tenir n'irait sûrement pas sans difficulté, mais je ne voyais pas quelle autre consolation m'accorder.
« On ne vous reconnaît plus quand vous parlez ainsi, » fit l'Est d'une voix étouffée.
Il se rapprocha de moi.
« Vous avez le regard d'un loup. »
Je secouai la tête et souris, du moins je retroussai les lèvres. « Non. » Un loup ne perd pas son temps à essayer de se venger,
Or, il s'agit précisément de ça, d'une vengeance, purement et simplement. Quand les gens ont l'air le plus méchant, ce n'est pas leur côté animal que tu vois, mais la sauvagerie dont seuls les humains sont capables. Quand je me montre fidèle à ma famille, là, tu vois le loup. » Du bout du doigt, il toucha son clou d'oreille, puis il plissa le front et demanda : « Voulez-vous que je reste avec vous ? Vous ne devriez pas affronter seul cette épreuve, et comme vous l'avez constaté, je n'ai pas menti. Je sais me servir d'un arc. » « En effet. Mais d'autres devoirs t'appellent, plus pressants. Burik n'a aucune chance de survivre s'il demeure ici. Ramène-le à Zilig. Vous y trouverez peut-être des guérisseurs efficaces. À tout le moins, il bénéficiera d'une chambre chauffée, de repas convenables et d'un lit propre. » « Mon père va mourir, Fitz-Chevalerie. Cessons de feindre de croire le contraire. » Ah, quel pouvoir renferment les noms. Je baissai les bras. « Tu as raison, Lest. Mais il n'est pas obligé de mourir dans le froid, sous un morceau de toile qui bat au vent. Nous pouvons au moins lui éviter cela. » Le jeune garçon se gratta le crâne. « Je veux exécuter la volonté de mon père, et je crois qu'il me dirait de rester avec vous, que je vous serai plus utile qu'à lui. » Je réfléchis. « Peut-être. Mais à mon avis, ta mère te tiendrait un autre discours. » Il ne faut pas le quitter. Voilà ce que je pense. Qui sait s'il ne va pas reprendre conscience avant la fin? Les mots qu'il te confiera peut-être pourraient se révéler précieux. Non, Lest. Accompagne-le. Reste auprès de lui, pour moi. Sans répondre, il hocha la tête. Tandis que nous parlions, on démontait le camp et on le chargeait à bord des navires. Lest parut stupéfait quand les Outriliens vinrent les chercher, Burik et lui. L'ours s'approcha, s'inclina gravement devant lui et lui demanda de lui accorder l'honneur de les transporter, son père et lui, sur le bateau du Hedgurd. Il les qualifia de tueurs de démons. Et, à son expression, je pense que Lest comprit alors avec saisissement qu'on l'avait laissé seul à son deuil, non par négligence, mais par respect. Le chant du barde, la chouette, les accompagna pendant qu'ils embarquaient, et bien qu'il déformât les mots selon les licences de sa profession, c'est la gorge nouée mais avec orgueil que j'écoutais louer l'homme qui avait jeté le dragon démon à genoux et l'enfant qui l'avait abattu pour libérer les otages de la femme pâle. J'observais que Tram empruntait la même embarcation qu'eux. Il voyagerait donc avec Lest, et cela me rassura. Je ne voulais pas que l'enfant demeurât seul parmi des inconnus, même empreint de déférence, à la mort de son père. Or, je craignais que Burik ne survécût pas jusqu'à Zilig. Le prince surgit tout à coup près de moi et me demanda sur quel bateau j'embarquerais. « Vous serez le bienvenu à bord des deux, mais vous n'aurez guère de place, quel que soit votre choix. Les Outriliens n'avaient pas prévu de ramener autant de monde et nous allons nous retrouver serrés comme harengs en cac. » Imbre, dans sa grande sagesse, a décidé de me séparer de la Narcheska, si bien que je voyagerai sur le navire de l'ours. Lui-même s'installera à bord de celui du sanglier, avec Péotr, sa sœur et sa nièce, car il espère faire progresser encore les ultimes négociations de notre alliance pendant le trajet. J'avais le cœur gros, mais je ne pus m'empêcher de sourire. Vous employez toujours le terme d'alliance. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un mariage à présent. Auriez-vous donné quelques motifs à Imbre de juger préférable de vous tenir à l'écart l'un de l'autre, Eliania et vous, durant notre retour à Zilig? Il haussa les sourcils et plissa les coins de sa bouche. Moi non, mais Eliania s'est proclamée satisfaite par le résultat de son défi, convaincue que j'étais digne d'elle, et elle a déclaré qu'elle me considérerait désormais comme son époux. Sa mère n'avait pas l'air absolument ravie, mais Péotr a refusé de s'opposer à la décision de sa nièce. Imbre a essayé d'expliquer à Eliania que je devais d'abord m'engager auprès d'elle dans ma maison maternelle, mais elle n'a rien voulu entendre et a riposté. De quel droit un homme oserait-il se dresser contre la volonté d'une femme en cette affaire? J'aurais aimé entendre sa réponse à pareille question. Il a répondu « En vérité, madame, je l'ignore. » Mais la volonté de la reine est que son fils ne partage pas votre couche tant que vous n'aurez pas annoncé devant ses nobles et elle-même que vous le jugez digne de vous. Et elle a accepté ce décret ?
Pas de bonne grâce.
À l'évidence, l'impatience de sa future épouse flattait le prince. Mais Imbre m'a arraché la promesse de me conduire avec réserve, alors qu'Eliana ne me facilite pas les choses. Bref, je voyagerai donc à bord de l'ours, et elle à bord du sanglier, avec Imbre et sans doute Lourd, car les Outriliens le portent désormais au nu avec ses mains d'édat. Alors, lequel choisissez-vous ? Venez-vous sur l'ours ? Vous y serez avec Burik, Lest et moi.
Je n'embarquerai sur aucun des deux. Mais je me réjouis d'apprendre que vous accompagnerez Lest. Il vit une période difficile, et il la supportera peut-être mieux entouré d'amis.
Comment ça, sur aucun des deux ?
Il était temps d'annoncer officiellement ma décision. Je reste ici de voir. Je dois essayer de retrouver le corps du fou. Il scia, pesa ma déclaration, et faisant preuve d'une compréhension qui me réchauffa le cœur, il accepta mon choix sans autre forme de procès.
Alors je demeurerai avec vous, et il vous faudra aussi quelques hommes si vous voulez creuser un tunnel jusqu'aux salles souterraines.
Il ne discutait pas ma résolution et me proposait de retarder l'heure de son propre triomphe pour m'assister. J'en fus touché.
Non, partez. Vous avez une Narcheska à épouser et une alliance à bâtir.
Je n'aurai besoin de personne, car j'espère trouver l'issue par laquelle Crible et les autres se sont échappés.
Vous êtes comme le fou qui court après la lune, Fitz. Vous ne parviendrez jamais à la localiser. J'ai écouté le compte-rendu de Crible avec autant d'attention que vous.
L'expression me fit sourire. Je crois que j'y arriverai. Je puis me montrer très entêté dans ce genre de cas. Je vous demande seulement de me laisser les vivres et les vêtements chauds dont vous pouvez vous dispenser. Il me faudra peut-être un peu de temps pour mener à bien mon entreprise.
Il hésita tout à coup. « Seigneur Fitz Chevalerie, pardonnez-moi, mais vous allez peut-être vous exposer à de grands risques pour rien. Sire Doré n'est plus en état d'éprouver ni froid ni faim, et vous n'avez guère de chance de retrouver cette fameuse issue, encore moins sa dépouille. Je ne crois pas avisé de vous autoriser à vous lancer dans cette opération. »
Sans tenir compte de cette dernière phrase, je répondis. « Voici un autre argument. Votre situation est déjà bien assez compliquée. Inutile d'y ajouter la résurrection du seigneur Fitz Chevalerie. Je vous conseille de prendre votre clan de vif à part et de lui faire jurer le secret à mon sujet. Je me suis déjà entendu avec Longue Mèche, et je pense que Crible se taira lui aussi. Tous les autres ont péri.
Mais les Outriliens connaissent votre identité. Ils vous ont entendu désigner par ce nom,
qui ne signifie rien pour eux. Ils ne se le rappelleront pas plus que je ne me rappelle celui de l'ours ou de l'aigle. Ils ne garderont le souvenir que du démon qui a voulu rester sur l'île. Il jeta les bras au ciel dans un geste de désespoir.
Et nous y revoici. Combien de temps votre séjour durera-t-il ? Jusqu'à ce que vous mouriez de faim ? Jusqu'à ce que votre entreprise vous apparaisse aussi vaine que la mienne ?
Je réfléchis rapidement. Laissez-moi 15 jours, puis envoyez un bateau me chercher. Si je ne parviens à rien en 2 semaines, j'abandonne et je rentre.
Je n'aime pas ça, fit-il en marmonnant.
Je crus qu'il allait discuter, mais il déclara.
15 jours, pas un de plus. Je n'attendrai pas que vous me préveniez, donc inutile de m'artiser pour m'extorquer du temps supplémentaire. Dans 15 jours, un navire mouillera devant cette grève, et que vous ayez réussi ou échoué, vous y embarquerez. Et maintenant, dépêchons-nous avant qu'on ait chargé toutes les provisions à fond de cale.
Mais cette crainte se révéla sans fondement. Les équipages vidaient au contraire les bateaux afin de faire de la place pour les passagers imprévus. Imbre maugréa et maudit mon entêtement, mais il dut finalement plier, car je refusais de changer d'avis, et chacun voulait profiter de la marée pour quitter les lieux. Malgré ma résolution, j'éprouvais un sentiment extrêmement étrange à me tenir seul sur la plage et à regarder les navires s'éloigner. Derrière moi s'entassait un matériel hétéroclite. Je disposais de tentes et de traîneaux plus qu'il n'en fallait pour un seul homme, et d'une réserve de vivres suffisante, quoique gastronomiquement sans intérêt. Entre le moment où les bateaux disparurent et celui où la nuit tomba, je fis le tri dans ce bric-à-brac et rangeai ce dont je pensais avoir besoin dans mon vieux sac à dos usagé. Vêtements de rechange,
autant de provisions que je jugeais nécessaires et les plumes que j'avais ramassées sur la plage des autres. Longue Mèche m'avait fourni une épée de bonne qualité, celle d'Adroit, je crois, ainsi que son couteau personnel. Je gardais la tente et les affaires de couchage du fou, que j'installais pour la nuit, ainsi que son matériel de cuisine. Autant parce qu'il lui avait appartenu qu'à cause de leur faible poids. Je m'aperçus avec amusement qu'Ambre m'avait laissé un tonnelet de sa poudre explosive, comme s'il s'imaginait que j'allais y toucher. Je n'avais pas encore recouvré toute mon acuité auditive, pourtant j'en plaçais finalement un pot dans mon paquetage. J'allumai une bonne flambée pour la nuit. Le bois apporté par la mer n'abondait pas sur la grève, mais je n'avais que moi à réchauffer, et je m'autorisais ce petit plaisir. Je m'attendais à éprouver la sérénité que l'isolement me procure habituellement. Même au plus noir de mes ruminations, la solitude et la nature me réconfortent toujours. Mais je ne ressentis rien de tel ce soir-là. Le bourdonnement incessant du dragon submergé ne me laissait pas oublier la perversité de la femme pâle. J'aurais voulu qu'il y eût un moyen de le faire taire, de purifier la statue maléfique pour qu'elle ne fût plus qu'honnête pierre. Je me préparai une solide portion de gruau auquel je mélangeai une généreuse quantité du sucre d'orge que Devoir m'avait laissé. J'avalai ma première bouchée quand j'entendis des pas derrière moi. M'étranglant à demi, je me dressai d'un bond en tirant mon épée. L'ours pénétra dans le cercle de lumière de mon feu avec un sourire penaud.
« J'ai faim. »
Je vacillai sidéré. « Mais que fais-tu ici? Tu devrais être sur le bateau qui te ramène à Zilig. »
« Non, pas de bateau. Je peux manger. »
« Comment tu t'es débrouillé pour ne pas embarquer? Ambre est-il au courant, ou le prince? L'ours, tu ne peux pas rester. J'ai du travail, des tâches importantes à accomplir. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. »
« Ils ne sont pas au courant. Et je m'occuperai de moi tout seul. »
fit-il d'un ton offensé. Je l'avais fâché. Comme pour prouver son affirmation, il se dirigea vers la cargaison abandonnée, la fouilla et finit par trouver un bol. Je demeurai assis, les yeux plongés dans les flammes, avec le sentiment que le destin anéantissait mes plans. L'ours revint près de mon feu et s'installa sur une pierre en face de moi. Tout en écopant plus de la moitié du gruau de la casserole, il reprit.
« Ça a été facile. J'ai juste envoyé avec Ambre, au prince et avec le prince, à Ambre. Ils m'ont cru et ils sont montés dans les bateaux. »
« Et personne d'autre n'a remarqué ton absence ?» demandai-je, sceptique.
« Bah, les autres, je leur ai dit, ne me vois pas. Ce n'était pas compliqué. »
Il se remit à manger en savourant tranquillement son repas. À l'évidence, il tirait fierté de son astuce. Entre deux bouchées, il demanda
« Et toi, tu t'es servi de quel tour pour ne pas partir ?»«
D'aucun. Je suis resté parce que j'avais, et que j'ai toujours, une tâche à accomplir. On revient me chercher dans 2 semaines. » Je me pris la tête à 2 mains. Lourd, tu me joues une mauvaise farce. Tu ne l'as pas fait exprès, je le sais, mais c'est grave. Que vais-je faire de toi? Qu'avais-tu prévu une fois seul sur l'île? Il haussa les épaules et répondit la bouche pleine.
« De ne pas monter dans un bateau. Voilà ce que j'avais prévu. Et toi ?»
De marcher longtemps jusqu'au palais de glace, de tuer la femme pâle si je tombais sur elle, et de rapporter la dépouille de cire dorée si je la trouvais.
« D'accord, ça me va. »
Il se pencha pour examiner le fond de la casserole.
« Tu vas manger ce qui reste ?»
Apparemment non. J'avais perdu l'appétit en même temps que tout espoir de tranquillité. Je le regardais se restaurer en songeant que j'avais 2 options. Je ne pouvais pas l'abandonner sur la plage pour me mettre en quête de la femme pâle. C'eût été comme laisser un enfant à ses propres moyens. Donc, ou bien je restais avec lui sur la grève pendant 15 jours en attendant le bateau que m'avait promis de voir, je l'y embarquais et je reprenais le cours de ma mission, l'automne aurait déjà gagné l'île et la neige qui tombait du ciel s'ajouterait à celle que soufflait le vent pour effacer toute trace. Ou bien je l'emmenais. Je supportais sa lenteur exaspérante et je l'exposais au danger, sans parler d'exhiber devant lui une partie très intime de ma vie. Je ne voulais pas de sa présence quand je retrouverais le corps du fou. Je tenais à la solitude, j'en avais besoin pour ce moment. Oui, mais il était là,
et il ne pouvait pas se débrouiller sans moi. Sans que ma volonté intervînt, je revis soudain l'expression de Burick quand on m'avait confié enfant à lui. Il avait connu cette situation, et mon tour venait à présent. J'observais le petit homme qui raclait le fond du gruau et léchait la cuillère collante. « Lourd, ce sera dur. Nous devrons nous lever tôt demain matin et marcher vite. Nous allons remonter dans le froid, sans beaucoup de bois pour faire du feu et en mangeant toujours la même chose. Es-tu sûr de vouloir m'accompagner ?» J'ignore pourquoi je lui laissais le choix. Il haussa les épaules.
« Ça vaut mieux que le bateau. »
« Mais tu finiras par être obligé d'en prendre un. Quand celui qui doit m'emmener arrivera, je quitterai l'île. »
« Non, pas de bateau, »
fit-il d'un ton qui coupait court à toute polémique.
« On va dormir dans la jolie tente. »
« Il faut avertir Ambre et le prince que tu es ici. » Il se renfrogna, et je craignis qu'il ne s'est servi de l'arc pour me détourner de ce projet. Mais quand je les contactais, il participa à la communication, ravi du bon tour qu'il leur avait joué. Je perçus leur agacement à son égard et leur compassion pour moi, mais ils ne proposèrent pas de faire demi-tour. C'eût d'ailleurs été impossible. On ne remet pas à plus tard des nouvelles comme celles qu'ils rapportaient. Et aucun des deux navires ne pouvait retarder son arrivée au port. Le Hedgurd aurait jugé inacceptable l'absence du prince ou de la Narcheska. Non, ils devaient poursuivre leur route. Imbre offrit d'envoyer un bâtiment nous prendre dès qu'il mouillerait à Zilig, mais je lui demandai d'attendre que nous les artisions, pour nous déclarer prêts à rentrer.
« Pas en bateau !»
ajouta Lourd, et nul ne se sentit le courage de discuter. À bout de fatigue et d'ennui, il me suivrait quand je partirais, j'en avais la conviction. Comment pourrait-il vouloir rester seul sur l'île ? Puis, comme la nuit avançait, je songeais que sa présence m'était peut-être bénéfique par certains aspects. Quand je me couchais dans la tente du fou, Lourd me parut un intrus, aussi déplacé qu'une vache à un bal des moissons. Pourtant, sans lui, je le sais, j'aurais sombré dans une profonde mélancolie et ruminé les malheurs qui m'accablaient. Il m'empêchait de me concentrer sur mon but, il m'exaspérait, mais il me tenait aussi compagnie. M'occuper de lui ne me laissait pas le temps d'examiner mes peines de trop près. Je lui préparais un paquetage, adapté à sa robustesse, composé surtout de vêtements chauds et de vivres, sachant qu'il n'abandonnerait pas les victuailles. Mais, alors que je m'allongeais pour la nuit, je commençais à redouter la journée du lendemain où je devrais le traîner derrière moi.
« Tu vas dormir ?»
demanda Lourd comme je tirais mes couvertures par-dessus ma tête. « Oui. »
« J'aime bien cette tente, elle est jolie. »«
Oui. »«
Ça me rappelle la roulotte quand j'étais petit. Ma maman l'a décorée avec des belles couleurs, des rubans et des perles partout. »
Je me tus en espérant qu'il finirait par s'assoupir.
« Ortie aussi, elle aime les jolies choses. »
« Ortie. » Une vague de remords me submergea. Je l'avais exposée au danger, j'avais failli la perdre et depuis... Je n'avais pas essayé une seule fois de la contacter. J'eus honte des risques que je lui avais fait courir. Je rougis de n'avoir pas été celui qui l'avait sauvé. Et même si j'avais eu le courage d'implorer son pardon, je n'aurais pas eu celui de lui annoncer que son père mourait. Je m'en sentais obscurément responsable. Sans moi, Burick serait-il venu ? Aurait-il défié le dragon ? Je pris alors la mesure de ma lâcheté. Je n'hésitais pas à partir, l'épée à la main à la recherche de la femme pâle pour la tuer, mais je n'osais pas affronter ma propre fille, que j'avais traitée de façon indigne. « Va-t-elle bien ? » demandai-je d'un ton brusque.
« À peu près. Je vais lui montrer la tente cette nuit, d'accord ? Ça lui plaira. »
« Sûrement. » J'hésitais, puis franchis un nouveau pas. « A-t-elle toujours peur de s'endormir ? »
« Non. Si. Enfin, pas quand je suis là. » Je lui ai promis de ne plus la laisser tomber dans le trou, de la surveiller et d'empêcher qu'il lui arrive du mal. J'entre le premier dans le sommeil et puis elle me rejoint.
On eût cru un rendez-vous dans une taverne, comme si le sommeil était un établissement ou un village le long de la route où il se retrouvait. Je devais faire un effort intellectuel pour comprendre le sens qu'il donnait aux mots pourtant simples qu'il employait.
« Bon !» « Il faut que je dorme. Ortie doit attendre que je vienne la chercher. »
Lourd, dis-lui. Non. Je suis content. Je suis content que tu puisses l'accompagner. » Il se dressa sur un coude et déclara gravement.
« Tout ira bien, Tom. Elle va retrouver sa musique. Je l'aiderai. »
Il poussa un long soupir fatigué.
« Elle a une nouvelle amie. »
« Vraiment ?»«
Sidèle. Elle vient de la campagne. Elle se sent seule. Elle pleure beaucoup et elle n'a pas les vêtements qu'il faut. Alors elle est amie avec Horty. »
J'en apprenais beaucoup plus que je ne l'aurais voulu. Ma fille avait peur de dormir, peur de la nuit, de la solitude, et elle se liait avec une pie reniée par ses parents. J'eus subitement la certitude que Heur nageait dans une félicité semblable. Et l'accablement me saisit. Je tâchais de trouver quelque satisfaction dans l'idée que Ketriken avait tiré Sidèle d'un ostracisme qu'elle ne méritait pas, mais j'eus du mal. La flamme de la petite chaufferette à huile du fou se mit à vaciller, puis s'éteignit. L'obscurité, ou ce qui en tient lieu l'été dans la région du monde où nous séjournions, étendit sa main sur notre tente. Allongé sous mes couvertures, j'écoutais la respiration de Lourd, le bruissement des vagues sur la grève et le troublant murmure du dragon disloqué sous les eaux. Je fermai les yeux, mais ne pus m'endormir, inquiet, à la fois, je crois, de rencontrer Horty et de ne pas la rencontrer. Au bout d'un moment, je finis par avoir le sentiment que le sommeil s'ancrait bel et bien dans une réalité géographique et que j'en avais oublié le chemin. Pourtant, je dus m'assoupir, car la lumière de l'aube avivant les couleurs de la tente du fou me réveilla. J'avais dormi plus longtemps que prévu, et l'eau restait au pays des rêves. Je sortis, me soulageai, puis rapportai de l'eau du ruisseau glacé. Mon compagnon ne commença de réagir qu'en sentant l'odeur du gruau en train de cuire. Alors il se redressa sur son lit, s'étira d'un air heureux, et m'apprit qu'il avait passé la nuit à chasser les papillons avec Horty, et qu'elle lui avait confectionné un chapeau avec les insectes colorés qui s'étaient dispersés juste avant qu'il n'émerge du sommeil. Ces jolies sottises m'égayèrent, bien qu'elles fissent un contraste frappant avec mes projets. J'essayais de l'obliger à se presser, sans grand résultat. Il alla se promener sur la plage, tandis que je démontais la tente et la fixais sur mon sac à dos. Puis je dus le persuader d'endosser son paquetage et de me suivre. Nous nous mîmes en route le long de la mer dans la direction d'où Crible et son groupe étaient arrivés. J'avais écouté attentivement le récit du jeune garde. Ils avaient longé la grève pendant 2 jours. J'espérais, en les imitant puis en cherchant leurs traces pour retrouver l'itinéraire qui les avait conduits au bord de l'eau, remonter jusqu'à la crevasse par où ils avaient quitté le royaume de la femme pâle. Toutefois, j'avais compté sans la présence de Lourd. Tout d'abord, il se montra de bonne humeur, examinant les flaques laissées par la marée, ramassant des bouts de bois, des plumes et des algues. Naturellement, il se mouilla les pieds, maugréa, puis se plaignit bientôt d'avoir faim. Je portais un sac avec du pain de voyage et du poisson salé en prévision de cette éventualité. Il s'attendait à mieux, mais quand je lui expliquais clairement que j'avais l'intention de poursuivre ma route, quelle que fût sa décision, il accepta sa ration et la mâchonna tout en marchant. Nous ne manquions pas d'eau douce. Elle coulait en ruisselets qui entaillaient la plage ou humectait la roche des falaises. Je surveillais le niveau de la mer car je ne tenais pas à me trouver bloqué par la marée montante sur une portion de la grève dépourvue d'issue. Mais les vagues ne montaient guère et j'eus même la bonne surprise de découvrir des empreintes de pas au-dessus de la ligne de hautes eaux. Ces traces du passage de Crible me regaillardirent et nous continuâmes notre route. La nuit approchant, nous fîmes provision des rares morceaux de bois qui parsemaient la grève, dressâmes notre tente à l'écart de la ligne de marée et allumâmes un feu. Si je n'avais pas eu le cœur si triste, j'aurais passé une agréable soirée, car le croissant de la lune brillait dans le ciel et Lourd avait sorti son flutio. C'était la première fois que je pouvais m'abandonner complètement à ces deux musiques, car je percevais aussi nettement sa mélodie d'art que les notes aiguës de son mirliton. Celle-là se composait du souffle incessant du vent, des cris des oiseaux de mer et du bruissement des vagues sur la plage, entrelacé du son du flutio qui s'y glissait comme un fil de couleurs vives dans une tapisserie. En contact avec son esprit, je comprenais sa musique. Sans l'art, je n'eusse entendu sans doute qu'une pénible succession de notes sans queue ni tête. Nous mangeâmes simplement, d'une soupe de poisson séché additionnée d'algues fraîches prélevées sur la grève et de pain de voyage. Pour ne pas me montrer méchant, je la décrirai seulement comme nourrissante. L'ours l'avala par faim plus que par plaisir.
« J'aimerais bien des gâteaux de la cuisine, »
fit-il d'un ton de regret pendant que je récurais la casserole avec une poignée de sable. « Il faudra attendre notre retour à Castelserre, en bateau. »«
Non, pas le bateau. »«
L'ours, il n'y a pas d'autre moyen de repartir. »
Peut-être qu'en marchant assez longtemps, on arriverait chez nous.
Non, l'ours. Asclevial est une île. La mer l'entoure complètement. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous à pied. Tôt ou tard, il faudra prendre le bateau.
Non.
Et nous en revenions toujours au même point. Il montrait une grande faculté de compréhension. Mais il se heurtait toujours à ce sujet qu'il était incapable ou qu'il refusait d'accepter. J'abandonnai la question et nous allâmes nous coucher. Comme la veille, je le vis glisser dans le sommeil sans plus d'effort qu'un nageur dans l'eau. Je n'avais pas eu le courage de lui parler d'Ortie. Que pensait-elle de mon absence? L'avait-elle seulement remarqué? Je fermai les yeux et m'endormis à mon tour. À la fin de notre deuxième journée de marche, l'ours s'ennuyait, lassé de la monotonie du trajet. Par deux fois, il m'avait laissé prendre tant d'avance que j'avais pratiquement disparu à sa vue. Il avait alors couru sur le sable humide pour me rattraper et m'avait demandé, hors d'haleine, pourquoi nous nous pressions à ce point. Je n'avais trouvé aucune réponse satisfaisante à lui fournir. À la vérité, j'obéissais au sentiment d'une nécessité urgente, d'un acte que je devais accomplir avant l'achèvement duquel je ne connaîtrais pas la paix. Quand je me représentais le fou gisant, inerte, dans le palais glacé, la douleur que j'éprouvais me portait au bord de l'évanouissement. Je savais que je ne me pénétrerais vraiment de l'idée de sa mort qu'en voyant sa dépouille. J'étais comme un homme aux pieds gangrénés qui sait devoir en passer par l'amputation avant que son organisme puisse entamer sa convalescence. Je me hâtais vers ma souffrance. La nuit nous surprit sur une section étroite de la grève qui longeait une falaise festonnée de glaçons et ruisselante d'eau. Je jugeai la place suffisante pour installer le camp. Nous n'aurions rien à craindre tant qu'une tempête ne ferait pas monter les vagues. Nous dressâmes la tente, maintenue sur le sable par des pierres, allumâmes notre feu et mangeâmes notre triste provende. La lune avait gagné en éclat et nous restâmes un moment assis sous les étoiles à contempler la mer. Je profitai de ce répit pour m'interroger. Comment allait Heure ? Avait-il surmonté sa dangereuse affection pour Svania ou avait-il complètement succombé? Je pouvais seulement espérer qu'il avait su garder la tête froide. Je poussai un soupir d'inquiétude et l'ours, compatissant, me demanda
« Tu as mal au ventre ?»
Non, pas exactement. Je me tourmente pour Heure, mon fils que j'ai laissé à Bourg de Castelserre.
Oh.
Il ne parut guère intéressé. Puis, comme s'il avait longtemps réfléchi à la question, il ajouta
« Tu es toujours ailleurs. Tu ne fais jamais la musique là où tu es. »
Je le regardais, interloqué, puis je baissais la garde que je maintenais constamment dressée contre sa mélodie d'art. Quand elle pénétra en moi, j'eus la même sensation que lorsque, au crépuscule, j'absorbais la nuit par les yeux et que l'heure était propice à la chasse. Je me laissais aller à l'instant, à la jouissance du présent, au loup en moi, comme je ne m'y étais pas abandonné depuis trop longtemps. Je n'entendais jusque-là que le bruit de l'eau et du vent léger. Je perçus désormais le chuchotis du sable et de la neige déplacée par la brise, et, au fond de la terre, les lents craquements gémissants du glacier qui recouvrait l'île. Je sentis soudain l'odeur salée de l'océan, celle, plus âcre, du kelp échoué sur la plage et l'haleine froide de la vieille neige. J'avais l'impression d'ouvrir une porte qui donnait sur une époque révolue. Je lançai un coup d'œil à l'ours et je le vis tout à coup aussi complet et normal que moi dans ce décor, car il s'y livrait entièrement. Assis près de moi à jouir de la nuit, il ne manquait de rien. Un sourire détendit mes lèvres. Tu aurais fait un bon loup, lui dis-je. Et quand je m'endormis ce soir-là, Horty me rejoignit. Il me fallut quelque temps pour m'apercevoir de sa présence, car elle se tenait à la limite de mon rêve, les cheveux soulevés par le vent, tandis qu'elle regardait par la fenêtre de ma chambre d'enfant à Castelserre. Quand je la remarquai enfin, elle franchit l'ouverture et prit pied sur ma plage en disant simplement « Eh bien, nous voici ensemble. » Toutes les excuses, les explications, les justifications que j'avais préparées se bousculèrent soudain sur mes lèvres. Horty prit place sur le sable à côté de moi et se mit à contempler la mer. La brise agitait ses mèches comme le pelage d'un loup. Son immobilité contrastait tant avec les propos confus qui s'entrechoquaient en moi qu'une révélation s'imposa soudain à moi. Je vis l'individu fatigant que j'étais, toujours en train d'obscurcir l'air d'une grêle de mots et d'inquiétudes. Je me rendis compte que je me tenais assis à côté d'Horty, la queue soigneusement rabattue sur les pattes de devant. Je dis « J'avais promis à Œil de Nuit de te raconter des histoires sur lui, et je ne l'ai pas fait. » Un fil de silence se tissa entre nous, et elle répondit enfin « J'aimerais bien en entendre une cette nuit. » Alors, je lui parlais d'un louveteau maladroit, au museau camus, qui bondissait haut pour retomber sur d'infortunées souris, de la façon dont nous avions appris à nous fier l'un à l'autre, à chasser et à penser à l'unisson. Horty m'écouta et à la fin de certaines anecdotes, elle pencha la tête et déclara « Je crois que je m'en souviens. » Quand je m'éveillais, l'aube filtrait par les animaux lumineux qui cabriolaient sur les parois de la tente. Et l'espace d'un instant, j'oubliais le poids de l'amertume et de la peine pour ne voir qu'un dragon bleu et brillant, les ailes déployées, bercées par le vent, tandis qu'au-dessous de lui, des serpents rouges et violets ondoyaient dans l'eau. Peu après, je pris conscience des ronflements de lourds et du clapotis des vagues tout près de notre abri. Alarmé, je me précipitais pour soulever le rabat et constatais avec soulagement que la marée descendait. Je dormais pendant que se présentait le vrai danger, la montée de la mer à moins de 2 pas de nous. Je sortis à 4 pattes, me redressai et m'étirai en contemplant l'étendue écumeuse. J'éprouvais un curieux sentiment de paix. Ma douloureuse mission m'attendait toujours, mais je m'étais réapproprié une partie de ma vie que je pensais perdue, définitivement abîmée. Je m'éloignai un peu pour me soulager et pris presque plaisir au contact froid et dur du sable humide sous mes pieds nus. Mais quand je revins, ma sérénité vola en éclats. Enfoncé de biais dans la plage, à quelques pouces du rabat de la tente, se trouvait le pot de miel du fou. Je le reconnus aussitôt et me rappelai sa disparition la première nuit après notre débarquement, alors que je l'avais laissé dehors. Je parcourus vivement du regard la grève, puis le surplomb rocheux en quête d'un intrus, mais en vain. Je m'approchai du pot de miel à pas compter, comme s'il risquait de me mordre, sans cesser de chercher une trace, même infime, de l'inconnu qui nous avait discrètement rendu visite pendant la nuit. Mais la marée avait lissé la plage. L'homme noir m'échappait encore une fois. Enfin, je ramassai le petit récipient et jetai son bouchon, en m'attendant à je ne sais quoi. Je le trouvais complètement vide, sans la moindre trace de l'onctuosité sucrée qu'il contenait. Je rentrai dans la tente et le rangeai soigneusement aux côtés des autres affaires du fou, tout en m'interrogeant sur la signification de ma découverte. Un moment, j'envisageais d'en avertir Humbre et de voir, mais préférais finalement la terre pour le présent. Je ne glanais que peu de bois ce matin-là, et Lourd et moi dûmes nous contenter de poissons séchés et d'eau froide pour tout petit déjeuner. Les vivres qui m'avaient paru plus que suffisants pour un seul homme fondaient à vue d'œil. Je pris une grande inspiration et m'efforçai de réagir en loup. Pour l'instant, il faisait beau. Il y avait assez à manger pour la journée. J'avais de quoi continuer mon périple. Inutile de pleurer sur mon sort. Lourd se montra plein d'entrain jusqu'à ce qu'il me vit démonter la tente. Alors, il me reprocha d'un ton geignard de vouloir passer mes journées à marcher le long de la plage. Je me mordis la langue pour me retenir de rétorquer que personne ne l'avait obligé à rester sur l'île et à lier son destin au mien, et je répondis que nous n'avions plus guère de chemin à parcourir. Ces mots parurent le ragaillardir. J'avais omis de préciser que je comptais chercher d'éventuelles traces laissées par Crible et ses compagnons lors de leur arrivée sur la grève. Le jeune garde avait parlé d'une falaise, et j'espérais, si des empreintes de leur passage existaient, que le vent et les marées ne les avaient pas encore effacées. Nous entamâmes donc notre lente progression. Je savourais la fraîcheur du jour et l'aspect toujours changeant de la mer tout en examinant du coin de l'œil l'escarpement que nous longions. Toutefois, le signe que je repérais soudain n'était certainement pas du fait de Crible ni de ses camarades. Gravé de frais dans la pierre, sans que la pluie ni les embruns eussent eu le temps de l'adoucir, comme un message dont le sens ne laissait pas de doute, un dragon grossièrement dessiné dansait au-dessus d'un serpent à l'échine arquée. Les surplombant, une flèche pointait vers le haut. Celui ou celle qui avait tracé ces marques avait apparemment choisi une voie d'ascension sans difficulté pour parvenir en haut de la pique. Néanmoins, je m'y engageais le premier, sans mon paquetage, tandis que l'ours restait tranquillement sur la plage. Au sommet de la falaise battue par le vent, je découvris une fine couche de terre, à laquelle s'accrochaient des touffes d'herbe obstinées au milieu d'une mousse qui crissait sous mes pas. Une espèce de prairie rase s'étendait au-delà, où se mêlaient des graminées, des cailloux encroûtés de lichen et des buissons accablés. J'avais gravi l'escarpement, un couteau entre les dents, mais personne, ni ami ni ennemi, ne m'attendait. Seuls m'accueillirent la plaine aride et l'haleine froide du glacier tapis au loin. Je redescendis pour chercher d'abord nos sacs, puis l'ours. Il ne se débrouilla pas trop mal, malgré sa petite stature et son embonpoint, et nous nous trouvâmes enfin au sommet côte à côte.
« Voilà !»
fit-il quand il eut repris son souffle.
« Et maintenant ?»
Je ne sais pas. Je parcourus les environs du regard, en supposant qu'on n'avait pas laissé à notre intention un signe aussi clair pour nous abandonner un peu plus loin. Il me fallut quelque temps pour repérer le suivant. On n'avait pas cherché à le dissimuler, je pense, mais par sa nature, il n'était guère visible. Il s'agissait d'un alignement de petits galets, une extrémité tournée vers la plage, l'autre vers l'intérieur de l'île. Je tendis à l'ours son paquetage et endossai le mien. « Viens, » dis-je au petit homme, « nous allons par là. » Je pointai le doigt. Du regard, il suivit la direction de mon index, puis il secoua la tête d'un air déçu.
« Non, pourquoi faire ? Là-bas, il n'y a que de l'herbe et après, de la neige. »
Comment lui expliquer simplement ma décision ? Il avait raison. Au loin, la plaine d'herbe courte laissait la place à la neige, puis à la haute silhouette du glacier. Au-delà, un versant rocheux brillait, enveloppé de givre. « En tout cas, moi j'y vais, » déclarai-je, et je joignis le geste à la parole. Je ne forçais pas l'allure, mais je ne me retournais pas. En revanche, je tendis l'oreille et le vif. Il me suivait, quoique à contre-cœur. Je ralentis le pas pour lui permettre de me rattraper, et quand il fut à ma hauteur, je dis avec entrain. « Vois-tu, lourd, je crois bien qu'aujourd'hui nous allons trouver les réponses à certaines de nos questions. »«
Quelles questions ?»«
Qui est l'homme noir, par exemple ?» Il prit l'air buté.
« Je m'en fiche !»
Eh bien, au moins, il fait beau et nous ne marchons plus sur la plage.
Non, on marche vers la neige.
Il avait raison. Et nous en atteignîmes bientôt la limite. Là, nous découvrîmes, parfaitement visibles, les empreintes de l'homme noir qui allait et venait. Sans un mot, je les suivis, lourd sur les talons. Peu après, il me fit observer.
On n'enfonce pas de bâton dans la neige, au risque de tomber à travers.
« Tant que nous suivons ces traces, il n'y a pas de danger, je pense, » répondis-je. « Nous ne sommes pas encore sur le glacier. » En début d'après-midi, nous parvînmes devant une barre rocheuse, après avoir franchi une étendue venteuse de neige et de glace. Haute et rébarbative, elle défiait les bourrasques. Le gel y avait suspendu des colonnes scintillantes et ouvert des fissures. À son pied, les empreintes tournaient vers l'ouest et se poursuivaient. Nous les imitâmes. La nuit grisaillait le ciel et je continuais obstinément, en donnant à l'ours des bâtonnets de poissons séchés quand il se plaignait de la faim. Néanmoins, comme le crépuscule s'assombrissait, la fatigue eut raison de ma curiosité, et nous finîmes par nous arrêter. Penaud, je me tournai vers Lourd. Ma foi, je me trompais. Nous allons dresser la tente, d'accord ? Sa lèvre inférieure saillit, surmontée de sa langue, et il fronça ses sourcils, proéminents d'un air déçu.
Il faut vraiment ?
Je parcourus les alentours du regard sans savoir quoi lui proposer d'autre. Que voudrais-tu faire ?
Allez là-bas !
S'exclama-t-il, entendant un index courtois. Je suivis des yeux la direction qu'il indiquait, et un hoquet de surprise bloqua mon souffle. Uniquement préoccupé des traces, je n'avais pas observé attentivement l'escarpement rocheux. Devant nous, à mi-hauteur du versant, une large crevasse était fermée par une porte en bois gris, et on avait comblé les interstices restants avec des pierres de taille variée. Par l'ouverture entrebâillée filtrait la lueur jaune d'un feu. La grotte était occupée. Avec une énergie renouvelée, nous suivîmes les empreintes jusqu'au moment où elles repartirent soudain en arrière pour emprunter un chemin escarpé qui montait à l'oblique le long de la paroi. Parler de chemin est d'ailleurs exagéré, car nous dûmes avancer l'un derrière l'autre tandis que nos sacs cognaient sans cesse contre la roche. Néanmoins, il s'agissait d'un sentier fréquenté, nettoyé des cailloux et de la glace susceptibles de faire trébucher le voyageur. On avait cassé et déblayé les ruisselets d'eau gelée qui avaient tenté de le traverser, et ce travail paraissait récent. Malgré ces signes d'hospitalité, ce n'est pas sans émoi que je parvins enfin devant la porte, fabriquée à partir de morceaux de bois flottés, corroyés à la main et laborieusement chevillés ensemble. Son entrebâillement laissait échapper une douce chaleur et une odeur de cuisine, mais, bien qu'il n'y eût guère de place sur le seuil, j'hésitais à la pousser. Pas Lourd. Il me bouscula et ouvrit la porte.
« Ohé !»
lança-t-il d'un ton plein d'espoir.
« On est là et on a froid !»«
Entrez, je vous prie !»
répondit-on d'une voix grave et agréable. Elle accentuait les mots de façon étrange et présentait un timbre rauque comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. Mais on y sentait une chaleur évidente. Lourd obéit avec empressement et je l'imitais plus lentement. Par contraste avec la pénombre du dehors, l'éclat du feu dans l'âtre m'aveugla, et tout d'abord, je ne distinguais qu'une silhouette assise dans un fauteuil de bois devant les flammes. Puis l'homme noir se leva sans hâte et se tourna vers nous. Lourd eut un hoquet de saisissement, puis, à mon grand étonnement, il se reprit aussitôt et retrouva ses manières pour déclarer d'un ton circonspect
« Bonsoir, grand-père !»
L'homme noir sourit. Ses dents usées paraissaient jaunes comme de l'os au milieu de son visage noir comme la nuit. Des rides auréolaient sa bouche et ses yeux se nichaient tout au fond de leurs orbites, pareils à des disques d'ébène brillants. Quand il parla, il me fallut un moment pour m'habituer à son autrélien mal prononcé.
« Je ne sais pas combien de temps je suis ici, mais je sais ça. C'est la première fois que quelqu'un entre et m'appelle grand-père. »
Il se redressa sans effort apparent, le dos parfaitement droit. Pourtant, tout en lui disait le grand âge, et ses gestes avaient la lenteur gracieuse de qui cherche à se protéger des chocs. Il désigna une petite table de la main.
« Je reçois des invités, pas souvent, mais j'offre mon hospitalité, malgré ce qui manque. S'il vous plaît, j'ai fait du repas. Venez. »
Lourd n'eut pas une hésitation. D'un mouvement d'épaule, il laissa sans regret glisser son paquetage jusqu'à terre. « Nous vous remercions, » dis-je tout en me débarrassant du mien, avec plus de délicatesse. Je rangeai les deux sacs côte à côte contre un mur. Mes yeux s'étaient accoutumés à la lumière du feu, et j'ignore s'il faut décrire la résidence de notre hôte comme une grotte ou une large fissure. Je ne discernais pas le plafond, et je supposais que la fumée s'y accumulait sans trouver d'issue par le haut. Le mobilier simple, mais d'excellente facture, manifestait l'art et l'application d'un homme qui a eu tout le temps d'apprendre sa technique et de la mettre en œuvre. Il y avait un chalet dans un angle, un garde-manger, un seau, une barrique et un tapis tissé. Certains objets
fortune de mer, provenait manifestement de la plage, tandis que d'autres avaient été fabriqués à l'évidence à partir des maigres moyens qu'offrait l'île, et tous indiquaient un long séjour. L'homme qui nous recevait avait une taille comparable à la mienne, et un teint d'un noir aussi profond que celui du fou avait été blanc autrefois. Il ne nous demanda pas nos noms, ne nous donna pas le sien, mais remplit de soupe trois bols de pierre qu'il avait mis à chauffer près du feu. Il se montra tout d'abord peu bavard. Nous parlions en outrilien, qui n'était la langue maternelle d'aucun d'entre nous. Lourd employait celle des Sud-Duchés, mais parvenait à se faire comprendre. L'homme noir et moi, nous efforcions d'établir une communication claire autour de la table basse, installée sur des coussins, faits d'une enveloppe de roseaux tissés et garnis d'herbes sèches. Quel plaisir de pouvoir s'asseoir. Nous mangions avec des cuillères sculptées dans de l'os. Il y avait du poisson dans la soupe, mais du poisson frais, tout comme d'ailleurs les tubercules bouillis et les rares légumes qui l'épaississaient. Après un interminable régime à base de rations séchées ou saumurées, nous avions l'impression d'un mets de roi. Je restai surpris quand il déposa une galette de pain sur la table, et il eut un sourire de connivence en voyant mon regard.
Elle avait ça dans sa dépense. Je l'ai pris, dit-il d'un ton où ne perçait nul remords. Ce qui me manquait, je l'ai pris, et parfois plus.
Il soupira.
Et maintenant, c'est fait. Plus simple sera ma vie. La vôtre. Plus seule, je crois.
J'eus tout à coup le sentiment de participer à une conversation commencée depuis longtemps, où nous savions tous deux, sans avoir besoin de l'exprimer, pourquoi nous nous trouvions réunis. Aussi me bornai-je à déclarer « Je dois retourner le chercher. Il avait horreur du froid. Je ne peux pas laisser sa dépouille ici. Et je dois également m'assurer que tout est bien fini. Qu'elle est bien morte. » Il opina gravement, acceptant l'inévitable.
« Votre chemin, et ce chemin vous devez suivre. »
« Voulez-vous m'aider dans ce cas ?» Il secoua la tête, non avec regret, mais par obéissance à l'inéluctable.
« Votre chemin, » répéta-t-il. « Le chemin du changeur appartient seulement à vous. »
M'entendre appeler ainsi fit courir un frisson glacé le long de mon dos. Néanmoins, je ne lâchais pas prise. Mais j'ignore comment accéder dans son palais. Vous connaissez sûrement une issue, puisque je vous y ai vu. Ne pouvez-vous au moins me l'indiquer ?
Le chemin vous trouvera,
m'assura-t-il avec un sourire.
Dans le noir, il ne peut pas se cacher.
Lourd leva son bol vide.
Ah ! C'était bon !
Encore alors ?
Oui, s'il vous plaît,
s'exclama le petit homme. Et il poussa un grand soupir de bonheur tandis que l'autre le servait à nouveau. Il mangea sa seconde portion moins goulûment. Sans rien dire, l'homme noir se leva pour mettre à chauffer de l'eau dans une vieille bouilloire cabossée. Il ajouta du combustible dans le feu, et le bois flotté s'embrasa en laissant échapper de temps en temps des flammèches aux couleurs inattendues. Notre hôte s'approcha d'une étagère et examina soigneusement trois petites boîtes en bois. Je me dressai en hâte et allai ouvrir mon paquetage. « Je vous en prie, permettez-nous d'apporter notre contribution au repas. J'ai ici des herbes à tisane. » Quand il se retourna, je compris que je ne m'étais pas trompé. Il avait l'expression qu'aurait eu un autre à qui j'aurais offert de l'or et des bijoux. Sans hésiter, j'ouvris un des petits paquets du fou et le lui tendis. Il se pencha pour le humer. Puis, il ferma les yeux, tandis qu'un sourire de pure béatitude s'épanouissait sur son visage.
« Un cœur généreux, vous avez, » fit-il, « un souvenir de fleurs grandies. Rien ne réveille les souvenirs comme le parfum.
« S'il vous plaît, gardez tout pour en profiter, » lui dis-je, et ses yeux noirs brillèrent au milieu de son visage radieux. Il prépara la tisane avec un luxe de précaution, réduisant les herbes en poussière, puis les mettant à infuser dans un récipient méticuleusement fermé. Quand il ôta le couvercle et que la vapeur aromatisée s'éleva, il éclata d'un rire ravi, et, comme devant un enfant heureux, Lour et moi nous joignîmes par pur plaisir à sa gaieté. Il y avait chez lui une spontanéité charmante qui m'interdisait de me concentrer sur mes préoccupations. Il servit la tisane, et nous la bûmes à petites gorgées pour en savourer à la fois la fragrance et le goût. Quand nous eûmes vidé nos tasses, Lour bâillait à s'en décrocher la mâchoire, et augmentait par contagion ma propre fatigue.
« Dormir là !»
dit notre hôte en indiquant son lit à Lour. « Je vous en prie, non, nous avons nos affaires de couchage. Ne vous croyez pas obligé de nous céder votre lit, » répondis-je. Mais il tapota l'épaule de mon compagnon et désigna de nouveau sa couche.
« Vous serez bien, à l'abri, et d'où les rêves. Reposez bien. »
Il n'en fallait pas davantage à Lour. Il avait déjà ôté ses bottes. Il s'assit sur le chalit et j'entendis le craquement d'un sommier de corde. Puis, il souleva la courte pointe, se glissa dessous et ferma les yeux. Je crois qu'il s'endormit aussitôt. J'avais commencé à installer notre literie près du feu, dont une couverture, fabriquée par les anciens, appartenait au fou. Le vieil homme l'examina attentivement, en frottant d'un air de regret le tissu fin entre son pouce et son index.
« Si bon vous êtes, si bon !»
dit-il. Il tourna vers moi un regard presque attristé.
« Votre chemin attend. Que la fortune soit bienveillante pour vous et la nuit douce. »
Puis il s'inclina, manifestement en signe d'adieu. Ahuri, je jetai un coup d'œil à sa porte, puis ramenai les yeux sur lui. Il hocha lentement la tête.
« Je veillerai la garde, »
m'assura-t-il en indiquant Lour. Je continuai à le dévisager, toujours égaré. Il ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Et je devinai l'effort qu'il faisait pour organiser sa pensée en termes compréhensibles pour moi. Il posa ses mains sur ses joues, puis me montra ses paumes noires.
« Avant, j'étais le blanc. » Le prophète.
Il sourit en me voyant écarquiller les yeux, mais la tristesse réapparut aussitôt dans son regard obscur.
J'ai raté. Avec ceux d'autrefois, je suis venu ici. Nous étions les derniers, nous savions. Les autres cités étaient vides et mortes, mais j'avais vu une chance encore. « Petite, que tout revient comme avant. Quand le dragon est venu, d'abord j'ai eu l'espoir, mais il était plein de tristesse, malade, comme d'une maladie. Il s'est enterré dans la glace. J'ai essayé, j'ai parlé avec lui, supplié. Encouragé, mais il s'est détourné pour chercher la mort, et moi, je n'avais plus rien, plus d'espoir, rien qu'attendre. Pendant très longtemps, je n'ai rien eu, je ne voyais rien. L'avenir devenait noir, et les chances devenaient plus petites.
Il joignit les mains, creusa légèrement les paumes et plaça un œil contre l'ouverture pour me montrer à quel point ses visions s'étaient réduites. Puis, il me regarda. Mon air hébété dut le décevoir car il secoua la tête et avec un effort visible poursuivit.
« Une seule vision, il me reste. Je vois. Non, j'aperçois tout petit. » Ce qui peut être, pas certain, même pas, mais une chance. Un autre peut venir avec un autre catalyseur.
Il tendit la main vers moi et la ferma en un point, où seule subsistait une minuscule trouée.
« Il y a peut-être une toute petite chance, très petite, très pas probable, mais elle existe. »
Il posa sur moi un regard ardent. J'acquiesçai de la tête, sans pourtant avoir la certitude de tout comprendre. Avais-je affaire à un prophète blanc qui avait échoué, mais qui avait tout de même prévu notre apparition au fou et à moi? Conforté par mon signe, il reprit.
« Elle est venue. D'abord, j'ai pensé, c'est elle. Et elle amène son catalyseur. J'ai l'espoir de nouveau. Elle dit, elle cherche le dragon. Et je suis stupide. Je montre le chemin. Alors, elle trahit. Elle essaie de tuer Glacefeu. Je suis en colère, mais elle est plus forte. Elle me chasse et je dois fuir par un chemin qu'elle ne connaît pas. Elle croit, je suis mort, et elle prend tout. Je reviens, et ici je fais une maison pour moi. Ce côté de l'île, ces hommes viennent pas. Mais je vis, et je sais, elle est fausse. Je veux mettre elle par terre. Mais faire les changements n'est pas mon rôle, et mon catalyseur. »
Sa voix devint soudain rauque, et il poursuivit avec difficulté.
« Elle est morte, morte depuis beaucoup d'années. Qui pourrait croire la mort dure tellement plus longtemps que la vie ? Alors, je reste seul, et je ne pouvais pas faire les changements qu'il fallait. Je pouvais faire qu'attendre. Encore, j'ai attendu. J'ai espéré. Et puis, je l'ai vu. Pas blanc, mais or. Étonné, j'étais. Et puis, vous venez après lui. Lui, je reconnais tout de suite. Vous, quand vous laissez le cadeau pour moi. Mon cœur. »
Il se toucha la poitrine, puis leva les mains au ciel avec un sourire béat.
« Je voulais aider très fort, mais je ne peux pas être le changeur. Très limité ce que j'ai droit de faire, où tout tombe par terre. Vous comprenez ?»«
Je crois, » répondis-je lentement. « Vous n'avez pas le droit d'opérer de modifications. Vous étiez le prophète blanc de votre époque, non le changeur. »
« Oui, oui, c'est ça. »
Il sourit.
« Et cette époque, pas la mienne, mais la vôtre, pour faire le changeur, et la sienne, pour voir le chemin, et guidez-vous. Vous avez fait ça, et le nouveau chemin est trouvé. Il paie le prix. »
Dans sa voix, je sentis non de la peine, mais l'acceptation de l'inévitable. J'inclinai la tête. Il me tapota l'épaule et je levai les yeux vers lui. Son sourire était celui des très vieilles gens.
« Et nous avançons encore, »
fit-il avec confiance,
« vers une nouvelle époque, des chemins nouveaux derrière toutes les visions. Ce temps, je n'ai jamais vu, ni elle, elle qui m'a trompé, elle n'a jamais vu ça. Seulement, votre prophète, il a vu ce chemin, le nouveau chemin, après le retour des dragons. »
Il poussa tout à coup un grand soupir.
« Oh, est-elle le prix pour vous ? Mais il est payé. Allez. » Cherchez ce qui reste de lui, le laissez ici. »
Le vieil homme secoua la tête.
Ça ne doit pas être. »
Il fit un geste.
« Changeur, allez. Même maintenant, je n'ose pas être le faiseur de changement. Tant que vous vivez, c'est vous seulement. Partez. »
Il désigna mon sac et la porte, puis sourit. Puis, sans ajouter un mot, il s'assit avec précaution sur le lit du fou et s'étendit devant le feu. J'éprouvais un étrange tiraillement. D'un côté, j'étais épuisé, et l'homme noir, à l'instar du fou, créait autour de lui un îlot de paix. De l'autre, précisément à cause de cette comparaison, je ressentais la nécessité urgente de clore l'histoire. J'aurais aimé avoir su à l'avance que j'allais repartir. J'aurais prévenu Lourd. Pourtant, j'ignore pourquoi, je ne pensais pas qu'il s'inquiéterait en ne me trouvant pas à son réveil. Il me paraissait inévitable de devoir quitter mon hôte. Je renfilai ma tenue d'extérieur encore froide, puis rendossai mon paquetage. Une dernière fois, je parcourus des yeux le minuscule logement de l'homme noir, et ne pus m'empêcher de lui comparer la splendeur du palais glacé de la femme pâle. Alors, avec un brutal serrement de cœur, je songeai que le corps de mon ami y gisait encore. Je sortis sans bruit dans la grisaille obscure de la nuit et refermai la porte derrière moi.